Chers frères et sœurs, aujourd'hui 19 mars, Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de l'Église universelle, s'efface devant notre Seigneur Jésus-Christ, d'autant plus que c'est un dimanche de carême. Si c'était un dimanche du temps ordinaire, sa solennité prendrait le pas. Mais les dimanches de carême sont d'une telle importance que jamais ils ne peuvent être remplacés par autre chose, fût-ce une solennité. Donc, c'est demain que nous aurons la joie de fêter l'époux de la Vierge Marie. La liturgie de la parole des 3e, 4e et 5e dimanches de carême nous propose à chaque fois un passage de l'évangile de Saint Jean qui est une véritable catéchèse baptismale. Dimanche dernier, nous avons écouté l'évangile de la Samaritaine, comme en témoigne la parole que nous pouvons lire sur la croix dans le cœur, « Si tu savais le don de Dieu ». Aujourd'hui, c'est cet admirable récit de la guérison de l'aveugle né, et dimanche prochain, nous écouterons l'évangile de la résurrection de Lazare, le grand signe, le signe éclatant de Jésus par lequel il annonçait sa propre résurrection. Dans le long récit que nous venons d'écouter, au chapitre 9 de Saint Jean, nous remarquons que l'aveugle n'est pas nommé, et ceci pour que chacun puisse s'identifier à lui. Et nous pensons tout particulièrement à nos catéchumènes. Nous poursuivrons aujourd'hui nos catéchèses sur la pénitence. Cela fait quelques dimanches que nous réfléchissons sur la pénitence. Nous avons vu comment Dieu a institué un sacrement particulier par lequel le Christ nous accorde la rémission de nos péchés. Il y a cette fameuse parole d'Isaac de l'Étoile qu'on vous a sans doute citée. L'Église ne peut rien pardonner sans le Christ, et le Christ ne veut rien pardonner sans l'Église. Le Christ ne veut rien pardonner sans son Église. Et c'est pour cela qu'il s'en remet au ministère des prêtres dans ce très beau sacrement qui porte de nombreux, au moins 3 noms, sinon 4, la pénitence, la réconciliation, le pardon, sans compter le nom usuel qu'on lui donne, finalement, ça reste confession. Je vous propose aujourd'hui de regarder de plus près ce sacrement que nous sommes appelés tout particulièrement à vivre pendant le carême et de donner quelques conseils pratiques. Nous pouvons décomposer ce sacrement dans son déroulement en 4 temps. Il y a d'abord cet élément absolument essentiel, sans lequel tout cela n'est qu'une forme de mascarade, si l'on peut dire. C'est la contrition. Je ne peux pas me confesser si je n'éprouve pas ce qu'on appelle la contrition de mes péchés, c'est-à-dire le regret. Le regret d'avoir péché, qui s'accompagne de la ferme résolution, de la détermination à ne plus recommencer, surtout quand il s'agit de fautes graves. Dimanche dernier, nous avons vu la distinction entre péché grave et péché dit véniel. L'acte de contrition traditionnel exprime finalement très bien ce qu'est la contrition. Je le rappelle, Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Voilà la contrition. Un grand regret. Je voudrais ne pas avoir fait le mal que j'ai fait. Bon, c'est fait, mais je voudrais ne pas l'avoir fait. Parce que vous êtes infiniment bon, on ajoute infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Oui, Dieu n'aime pas le péché, bien sûr. Dieu qui est tout amour, je dirais, incompatible avec le péché, si l'on peut dire. Je prends la ferme résolution, donc je décide fermement, avec le secours de votre sainte grâce, et ceci est très important. Ce n'est pas à la force du poignet que je vais réussir à ne plus pécher comme une espèce de performance. C'est par la grâce de Dieu agissant en moi que je vais être capable de ne plus tomber dans les mêmes péchés. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser. On retrouve le mot du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, de ne plus nous offenser et de faire pénitence. On reparlera de la pénitence qui est le quatrième temps de ce sacrement. Donc, une contrition, et il vaut mieux ce qu'on appelle la contrition parfaite, c'est vraiment je regrette d'avoir offensé Dieu et l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement que je regrette parce que j'ai peur d'aller en enfer. C'est assez rare aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle ça une contrition imparfaite, qui n'est pas nulle, hein, qui m'amène à reconnaître mon péché, mais c'est pas seulement pour éviter le châtiment, c'est parce qu'en je reconnais que j'ai offensé l'amour de mon Dieu. Le deuxième temps, alors celui-là, on y pense toujours, et même on en a un peu peur, mais il découle du premier. C'est justement la confession des péchés. Vous savez, ce terme qui a donné le nom à tout le sacrement par extension. Mais oui, il y a bien, quand je m'approche du prêtre, je vais dire quelque chose. Alors, quand il y a des péchés graves, peut-être que c'est rare d'avoir tué père et mère, mais enfin, quand un des péchés particulièrement graves, je veux dire, cela, il nous obsède, et donc nous allons les dire en premier lieu. Il est très important que la confession soit sincère et qu'on ne cache rien, je dirais, sciemment. Le prêtre est là comme un témoin de notre conversion, et donc cacher quelque chose, c'est le cacher à Dieu, ce qui est aberrant, puisqu'il voit. Donc une confession sincère, souvent, eh bien, il n'y a pas de péché très grave, mais je vais, grâce à un examen de conscience, essayer de déceler ce qui, dans ma vie, est péché, ce qui est manque de correspondance à l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous est recommandé de faire notre examen de conscience à la lumière d'un passage du Nouveau Testament. Je vous recommande par exemple le sermon sur la montagne dans saint Matthieu, tel ou tel passage, notamment les béatitudes. Et nous avons également certains passages de saint Paul. C'est souvent la deuxième partie des épîtres de saint Paul qui a une connotation de, ce sont des exhortations morales. Prenez la fin de l'épître aux Romains, prenez la fin de l'épître aux Éphésiens, et vous avez là matière à faire un bel examen de conscience avec des choses concrètes. Donc, une fois que j'ai fait cet examen de conscience, gardons le mot, eh bien, je vais aller voir le prêtre et lui dire quelque chose. Il ne faut pas chercher à être exhaustif. Il vaut mieux, je dirais, être précis dans ce qu'on dit. Parce que si j'en dis « je suis orgueilleux », on va dire « moi aussi ». Ce n'est pas significatif, nous sommes tous orgueilleux. Mais j'ai, dans telle circonstance, voilà, je me suis vanté devant mes collègues de sauter à 2,50 m. J'ai voulu faire croire que j'étais un grand sportif. Vous voyez, des choses où on se dit « Non, non, là, ça n'a pas été juste. » Ou bien, j'ai dit « J'ai menti. » Bon, plutôt, soyons précis. Vous voyez, on prend souvent l'image « Montrons la blessure. » Si vous allez voir le médecin et que vous lui dites « J'ai mal », vous avez mal où ? Ah, je ne sais pas, j'ai mal partout. Il peut rien faire, le pauvre médecin. Il ne peut pas vous aider. Hein. Il ne peut pas vous donner. Si vous dites, voilà, j'ai mal là, au fond de la gorge, il y a des élancements. Alors là, il va vous prescrire tel ou tel remède, ou prévoir telle ou telle opération. Ben, le médecin, si on dit que dans le sacrement de pénitence, le prêtre est le médecin des âmes, ben, il faut lui montrer la blessure. Quelque chose de précis, s'il vous plaît. Nous en arrivons au troisième temps, qui celui-là concerne, et plus le fait du prêtre, si je puis dire, même si le pénitent en bénéficie, c'est ce qu'on appelle l'absolution. C'est le moment où le prêtre, agissant, comme on dit en théologie, in persona Christi, c'est-à-dire totalement identifié au Christ, va dire « Je te pardonne tous tes péchés ». On voit bien qu'il agit, c'est pas le Père Intel qui pardonne, c'est le Christ par le ministère du Père Intel. Voici la formule, que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde, il est bien question de miséricorde, par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Donc ce qui est en toile de fond, c'est le mystère pascal, la mort et la résurrection, et puis l'envoi de l'Esprit-Saint. Par le ministère de l'Église, là voilà l'Église, le ministère de l'Église, le Christ ne veut rien pardonner sans l'Église, par le ministère de l'Église, qui vous donne le pardon et la paix. Très belle expression, la paix, oui, la paix du cœur, parce que le péché me met hors de moi, le péché inquiète ma conscience, le péché me fait perdre la paix, qu'il vous donne le pardon et la paix, et moi, alors là cette parole est incroyable, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Donc comprenons bien, le Christ en moi, et moi, in persona Christi, je vous pardonne tous vos péchés. Tous vos péchés. Jacques Fesch, hein. J'ai tué un gardien de la paix. Tu es pardonné, mon enfant, et il est mort comme un saint. N'enfermons jamais les plus grands criminels dans leurs péchés. Ne réduisons pas les personnes, même les criminels, à leurs péchés. Et surtout, quand le pécheur pardonné est la plus belle chose qui soit, souvent plus saint que le juste, n'est-ce pas ? On voit ça avec la parabole de l'enfant prodigue. Et enfin, le quatrième temps, c'est ce qu'on appelle dans le langage théologique la satisfaction, ou dans le langage courant, qui nous est plus familier, la pénitence. Nous savons très bien que le prêtre, quand nous allons le voir, déjà après la confession des péchés, entre la confession des péchés et l'absolution, il nous a fait une petite exhortation spirituelle ajustée à notre situation, et il nous a donné une pénitence à accomplir. Il est dit dans le catéchisme de l'Église catholique que celle-ci doit tenir compte de la situation personnelle du pénitent et doit chercher son bien spirituel. Bien entendu, on ne va pas donner le même type de pénitence à quelqu'un qui est marié, qui a responsabilité de charge de famille, à quelqu'un qui vit dans la vie consacrée, à quelqu'un qui est porté à la colère, quelqu'un qui est porté au mensonge. Tout cela, il faut ajuster. Vous voyez, le prêtre est comme un médecin, hein, c'est une forme de remède qu'il prescrit pour que le pénitent, en l'accomplissant, exprime justement son ferme propos de ne plus recommencer et ce désir de réparer, hein, pour le mal commis. Alors quand il y a vol, par exemple, eh bien, ça peut être de restituer, si c'est encore possible, ce qui a été volé, c'est tout simplement compenser le mal. Mais souvent, ça va être de l'ordre de la prière, de l'ordre d'un effort particulier, et tout cela, en l'accomplissant, je vais exprimer au Seigneur mon désir de conversion. Donc finalement, ce sacrement, on peut dire, il est particulièrement en correspondance avec ce temps du carême, qui est un temps de conversion, un temps d'humble reconnaissance de nos péchés, pour vivre d'une vie nouvelle. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand je reçois le pardon de mes péchés, même quand ce n'est pas des péchés dramatiques, mais des péchés, ce qu'on appelle péchés véniels, les péchés que nous commettons tous les jours, eh bien, je suis totalement renouvelé dans la grâce de mon baptême. Et c'est cela qui est important. Je repars, je dirais, d'un bon pied, avec une ferveur nouvelle, une joie nouvelle, avec une force de l'Esprit-Saint pour ne plus tomber dans les péchés qui, comme dit saint Paul, m'entravent si bien, et pour marcher, pour, comme dirait saint Benoît, courir dans la voie des commandements de Dieu. Alors puissions-nous, en ce temps du carême, profiter des occasions qui nous sont offertes pour vivre ce sacrement du pardon, ce sacrement de la réconciliation avec Dieu et avec l'Église. Et sachons que chaque fois qu'un membre de l'Église, chacun de nous en sommes membres, reçoit le pardon de ses péchés, eh bien c'est tout le corps de l'Église qui est renouvelé, qui bénéficie de ce pardon. Alors ne négligeons pas ce sacrement, bien au contraire, réjouissons-nous de le vivre, préparons-nous à le vivre à l'approche de Pâques.